découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio. Merci à tous de votre fidélité. Alors aujourd'hui, on va être avec Célia Morès comme chaque vendredi sur Nutri Radio de 11h à midi dans la sphère neuro. Déjà, merci à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous allez pouvoir y retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester à la pointe de la santé intégrative. Bonjour Célia.
Bonjour Ombline.
Alors aujourd'hui, pourquoi utiliser la réalité virtuelle en neuropsychologie et en recherche expérimentale ? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé l'entrée de la réalité virtuelle dans le champ de la neuropsychologie ?
Mais en fait, l'avantage de l'utilisation de la réalité virtuelle en neuropsychologie et en recherche, parce qu'il faut savoir que les deux domaines, je l'expliquerai, sont relativement liés, vient du fait qu'en réalité virtuelle, contrairement à un environnement écologique, c'est-à-dire dans la nature, dans la réalité, donc effectivement, en neuropsychologie et en recherche, on va l'utiliser notamment pour évaluer finalement les facultés cognitives comme l'attention, la mémorisation. Ça va nous permettre aussi d'évaluer les fonctions exécutives, c'est-à-dire le fait de pouvoir planifier un événement, de pouvoir organiser. Exemple, il y a eu des études qui ont été menées chez les parkinsoniens parce que en fait, les parkinsoniens avaient des déficits finalement d'organisation au niveau de la vie quotidienne, de planification, et on les a mis en réalité virtuelle pour en situation dans un supermarché, justement pour qu'ils puissent aller faire leurs courses. Ils avaient différentes tâches à faire pour voir s'ils arrivaient à planifier effectivement les différentes tâches, à s'organiser, et effectivement s'il y avait un problème, ça nous a permis de savoir à quel moment le problème survenait. Donc ça permet de réhabiliter aussi les fonctions cognitives, de faire travailler les personnes pour qu'elles puissent finalement retrouver du moins une partie de leurs fonctions cognitives. Ça a été fait sur la mémoire épisodique, et ça permet aussi, donc la mémoire épisodique c'est quoi ? C'est la mémoire du où, quoi, comment, pouvoir lier un événement, où est-ce qu'il a eu lieu, comment il a eu lieu, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé. Donc grâce à cette réalité virtuelle, il faut savoir qu'on peut évidemment totalement contrôler l'environnement, on peut évidemment faire varier effectivement les différentes tâches expérimentales en finalement faisant varier les difficultés du plus facile à la plus difficile. Donc il y a vraiment d'avantages d'utiliser cette réalité virtuelle. Ça a permis aussi de mener des études en parallèle, en même temps, avec de l'imagerie fonctionnelle. Donc, ça a permis de caractériser, les régions cérébrales qui sont impliquées, justement, dans certains types de tâches. Notamment, on a la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est quoi ? C'est la mémoire du futur. C'est-à-dire, typiquement, je dois, après mon travail, passer à la boulangerie, acheter une baguette de pain. C'est ce qu'on appelle la mémoire des intentions. Et donc, pour cela, il faut faire quoi ? Garder son intention en mémoire, ce qu'on doit faire, effectivement, et effectivement récupérer l'action que l'on doit faire, c'est-à-dire savoir que l'on doit prendre le pain à la boulangerie, et évidemment ne pas oublier de le prendre lorsqu'on voit la boulangerie. Donc, il y a des tas d'études qui ont été menées en neuropsychologie et en recherche pure, en recherche plus fondamentale, afin de caractériser les régions cérébrales, afin effectivement de pouvoir caractériser les éventuels dysfonctionnements et de pouvoir finalement faire travailler les individus pour des problèmes de vie quotidienne comme de mémorisation, de planification, d'organisation.
On parle souvent de présence ou d'immersion dans les expériences en réalité virtuelle. En quoi ces dimensions changent-elles la donne pour l'étude des comportements, des émotions ou même de la cognition ?
Mais en fait, le fait d'être en présence, c'est-à-dire qu'on est réellement dans l'environnement. On recrée la même situation qu'en réel. C'est-à-dire qu'on va avoir les personnes qui sont finalement, qu'on met en réalité virtuelle, au niveau physiologique, on a enregistré exactement les mêmes constantes physiologiques, les mêmes variations physiologiques que dans un environnement réel. La fréquence cardiaque qui augmente, la fréquence respiratoire qui augmente. Donc, toutes les sensations que l'on va avoir effectivement dans un environnement réel vont être totalement retransmises et vont être recréées dans cet environnement virtuel. Donc, les personnes, c'est pas juste, c'est une simulation et je fais semblant que comme si je regardais un film à la télévision. Lorsqu'on est en réalité virtuelle, mais en immersion totale, parce qu'il y a plusieurs sortes de réalité virtuelle, mais la plus immersive, celle où il y a le plus de présence, on est comme si on était en situation réelle, coupé du monde réel pour être dans le monde virtuel et justement, effectivement, en avoir les avantages qui est effectivement de pouvoir avoir les mêmes réactions physiologiques et psychologiques que l'on aurait dans la vie réelle.
Est-ce que la réalité virtuelle, elle permet d'accéder à des mesures plus objectives ou à des variables hein, qu'on ne pouvait pas suivre auparavant ?
Oui, totalement. Parce qu'en fait, en milieu réel, lorsqu'on fait un test de mémoire, il y a certains aspects, certaines étapes du processus mnésique, puisqu'en fait, je parlais tout à l'heure de la mémoire prospective, il faut savoir que c'est décomposé en plusieurs parties. Je garde l'intention, je récupère mon intention, j'ai détecté ma cible là où je dois faire l'acte que j'avais décidé de faire, donc par exemple de prendre ma baguette de pain à la boulangerie, et ensuite, bien évidemment, je vérifie que j'ai bien ma baguette de pain, et ensuite j'oublie pour passer à une autre cible. Toutes ces étapes vont mettre finalement en branle-bas de combat, comme on dit, certaines zones cérébrales qui ne sont pas forcément les mêmes tout au long des étapes. La réalité virtuelle va permettre de pouvoir regarder étape par étape ce qui ne serait pas possible en réalité réelle, enfin, c'est-à-dire en conditions écologiques, puisqu'on ne pourrait pas autant scinder les différentes étapes. Donc, ça permet vraiment de scinder tous les processus cognitifs et de permettre effectivement de regarder à quel niveau du processus cognitif il va y avoir effectivement un problème. Est-ce que c'est au moment de garder son intention en mémoire, de détecter la cible ? Est-ce que c'est au moment de récupérer l'information ? Et pourquoi au moment de récupérer l'information, il va y avoir un problème ? Et là, en faisant varier les différents types d'environnement virtuel, en faisant varier les différents types de tâches, de la plus simple à la plus complexe, effectivement, on arrive vraiment à mieux caractériser que si c'était seulement en version écologique.
Et comment ça se déroule concrètement une session en réalité virtuelle avec un patient ou un sujet de recherche ? Vous utilisez quoi comme outil de mesure ?
Alors, ça dépend en fait. Ça dépend parce que le test de réalité virtuelle est dépendant de l'environnement virtuel testé. Donc, ça dépend de ce que l'on veut mettre au point. Si on veut, par exemple, regarder les troubles de l'attention chez les patients atteints de, notamment les jeunes, atteints de troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH aujourd'hui. Connu sous le nom de TDAH, eh bien, on va créer une salle virtuelle de classe et on va faire jouer les différents types de distracteurs. Donc, l'enfant sera mis comme s'il était dans sa salle de classe. Il aura vraiment l'impression d'aller en salle de classe avec les professeurs, les gens autour, les amis. Enfin, en tous les cas, ils vont mettre des avatars autour. Et ils vont faire jouer des distractions. Un bruit, effectivement, à la fenêtre, une ambiance un petit peu particulière dans la salle. Donc, en fait, ça dépend effectivement des expériences que l'on veut mener. Pareil, au niveau de la mémoire prospective, il y a eu des études justement pour savoir qu'est-ce qui pouvait poser problème au moment même, où on récupérait l'information. Eh bien, ils ont fait varier le lien entre l'action à mener et l'indice. Je vous donne un exemple. Acheter ma baguette de pain à la boulangerie. Donc, on voit une boulangerie, effectivement, l'indice est assez fort et ça permet finalement de manière un petit peu automatique de se souvenir que l'on doit acheter le pain. Mais si on vous dit acheter le pain à la fontaine, bah, la fontaine n'est pas un indice assez fort pour pouvoir se souvenir et c'est là, d'acheter le pain et c'est là où on peut voir des différences. Donc, ça dépend vraiment, vraiment, effectivement, de la tâche que l'on veut faire mener à ces sujets, de ce que l'on veut montrer, de ce que l'on veut mettre en évidence.
Après, les bénéfices. Oui, les bénéfices spécifiques de la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça leur apporte alors ? C'est quoi les retours ?
Eh bien, en fait, le fait d'abord, parce qu'ils sont dans un milieu sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire, effectivement, en situation réelle. Hein, ça a été prouvé, notamment pour les personnes qui ont même aussi, tout ce qui est réhabilitation motrice. Hein, ça se fait aussi en recherche et en neuropsychologie. Donc, effectivement, ça va éviter peut-être des situations un petit peu à risque, comme on dit, avec la personne qui risque de tomber. Mais en plus, effectivement, ça permet pour nous d'augmenter nos connaissances en la matière. Ça, c'est un point important. Mais surtout aussi, ça va permettre de traiter les perturbations des patients et ensuite de trouver des applications qui vont nous permettre d'aider ces patients dans leur vie quotidienne pour qu'ils puissent aller mieux au quotidien et être moins dépendants, on va dire, notamment lorsque c'est des parkinsoniens, par exemple.
Et alors, selon vous, quels sont les points forts mais aussi les limites méthodologiques de ces protocoles ?
Alors, les limites, d'abord, les limites, ça peut être une contrainte physiologique. C'est vrai que, en réalité virtuelle, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des cybermalaises. C'est-à-dire que, suivant, effectivement, comment l'image arrive, le rafraîchissement, effectivement, de l'image sur l'écran graphique, etc., on sait qu'il y a des personnes qui peuvent être malades, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et, effectivement, à un moment donné, alors, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que si je compare en validité écologique, finalement, on est pratiquement identique au milieu naturel. Il y a plus de bienfaits, finalement, que de limites. Mais après, les limites, effectivement, ça pourrait être qu'il y a toujours un petit gap, je dirais, entre la réalité et le virtuel qui pourrait éventuellement jouer sur le fait que certaines choses après en milieu réel peuvent être peut-être un peu plus complexes à mettre en place. Mais déjà, honnêtement, j'en vois peu de limites. Alors, c'est peut-être parce que je suis de parti pris, j'avoue. Même si j'ai un petit peu utilisé la réalité virtuelle dans certaines de mes recherches, je suis peut-être de parti pris, mais c'est vrai qu'il y a quand même tellement d'avantages que les quelques limites qui pourraient y avoir, finalement, elles s'effacent.
On va faire une petite pause, Célia Morès, et on se retrouve juste après. On continue bien sûr de parler de réalité virtuelle.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Et on est de retour ici sur Nutri Radio avec Célia Morès. On parle de la réalité virtuelle. Alors Célia, est-ce que la réalité virtuelle peut être envisagée comme un outil de remédiation cognitive ?
Ah, totalement. Totalement, parce qu'en fait, justement, ça a pu être utilisé dans certaines situations à ces fins-là. D'ailleurs, j'avais fait une émission, alors ça doit être la semaine dernière, je pense, sur les thérapies, effectivement, d'exposition en réalité virtuelle pour les patients phobiques. Donc là, elle a été utilisée pour traiter les phobies.
Génial.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, carrément, c'est grâce à des recherches au départ. Mmh. On a fait des recherches en réalité virtuelle. On a vu que finalement, ça a amélioré, effectivement, certaines peurs, etc., qu'on pouvait jouer pour faire travailler les personnes et les mettre et les exposer à leur phobie pure. Donc, et ça a montré des effets bénéfiques. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des études qui avaient été menées sur des personnes qui étaient arachnophobes, donc qui avaient peur des araignées, et qui ont pu enfin pouvoir aller camper.
Ah oui, carrément, la phobie est partie.
Voilà, c'est
incroyable.
Ça. Donc effectivement, le but est aussi de pouvoir, et vraiment, vraiment, c'est ça qui va être important. Donc en mémoire, par exemple, prospective, ça a été mené chez des personnes atteintes de traumatisme crânien, parce qu'on sait qu'ils avaient des difficultés de mémorisation, donc des personnes qui avaient des capacités cérébrales diminuées. Donc, ça a permis effectivement de voir effectivement où était le problème. Donc, concrètement, ils ont fait quoi ? Ils ont créé un environnement virtuel, imaginez, et les personnes, c'était un bungalow, et les personnes avaient pour tâche de déménager le bungalow dans un nouveau bungalow. Déménagement normal. Et ils avaient des tâches à accomplir. Alors, soit ils devaient étiqueter effectivement des objets en verre avec marqué fragile. Donc, dès qu'ils trouvaient un objet en verre qu'ils mettaient dans un carton, ils devaient étiqueter fragile. C'est ce qu'on appelle event base, c'est-à-dire en fait faire quelque chose lié à un événement. Il y avait aussi, par exemple, d'ouvrir la porte toutes les 5 minutes aux déménageurs. Et il y avait aussi de fermer la porte une fois qu'on quittait la pièce.
OK.
Et là, ils ont montré quoi, justement ? Que les personnes, effectivement, qui avaient un traumatisme crânien étaient notamment moins bons au niveau, effectivement, de se souvenir d'ouvrir la porte aux déménageurs. Et non, ce n'était pas d'ouvrir la porte aux déménageurs, justement, parce que là, ils auraient dû trouver une différence, mais le laps de temps était tellement court, en fait, c'était toutes les 5 minutes où il fallait ouvrir, que finalement, ils arrivaient à s'en souvenir parce que c'était trop court, parce qu'effectivement, ils arrivaient à garder l'information dans leur mémoire à court terme, ce qu'on n'aurait peut-être pas pu montrer en situation réelle. Mais sinon, c'était surtout d'étiqueter les produits et effectivement, de se souvenir de fermer la porte. Donc, il y a eu ça, il y a eu aussi le fait de pouvoir finalement montrer que plus l'indice était fort, plus effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont pu réhabiliter comme ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, plus l'indice est fort entre un événement à faire et l'indice qui nous permet de le récupérer. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la baguette de pain à prendre à la boulangerie. Ben là, c'est fort. Donc, ça permettait d'aider les gens. Donc là aussi, ça va permettre d'établir des tests ou dans tous les cas, des procédures pour réhabiliter et aider les gens dans leur quotidien, dans la vie quotidienne. Il y avait aussi, qu'est-ce qui avait été mené aussi ? Ben, c'est déjà pas mal, effectivement, tout ce que j'ai dit aussi sur le trouble du TDAH, hein, donc hyperactivité avec attention, qui ont permis effectivement de mieux caractériser. Et après, le but, évidemment, c'est de les mettre en situation, en même situation, pour pouvoir les aider à gérer ces situations et peut-être justement à faire face aux distracteurs, etc., à mettre d'autres types de procédures en place. Mais là, on se rapproche, quand on parle de réhabilitation finalement, on se rapproche plutôt de tout ce qui va être des thérapies d'exposition en réalité virtuelle qui vont permettre effectivement de prendre le... Enfin, ça va devenir plutôt clinique plus que recherche et neuropsychologie.
Mais c'est génial parce que ça peut quand même s'appliquer à des troubles psychiques, donc les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, même la dépression, etc. Ça, c'est pour tout le monde, en fait, finalement.
Ah, c'est pour tout le monde. En tous les cas, comme je le disais la semaine dernière, en thérapie d'exposition, oui, il y a eu des études sur les troubles du comportement alimentaire, justement, pour permettre à des personnes, finalement, d'être face à face l'objet, on va dire, du désir et qui les fait succomber, pour apprendre à résister, pour apprendre à trouver des stratégies, justement, parce que, ou alors parce que, justement, d'autres personnes, c'était des troubles du comportement alimentaire parce qu'elle refusait d'aller au restaurant, vous voyez ce que je veux dire, et parce qu'elle voulait pas manger. Donc là aussi, on a pu jouer, mais au départ, c'était de la recherche. Et après, soit on passe effectivement dans le domaine du soin, soit effectivement, on continue à explorer pour mieux comprendre pourquoi chez ces personnes-là, ça dysfonctionne et à quelle étape du processus ça dysfonctionne. Et une fois qu'on sait à quelle étape du processus ça dysfonctionne, bien évidemment, on va pouvoir trouver une solution ou du moins essayer de la trouver au niveau du soin pour améliorer leur vie quotidienne et effectivement diminuer leurs problèmes soucis, et leurs symptômes surtout.
Est-ce qu'on peut imaginer un futur où la réalité virtuelle serait carrément un outil accessible dans les cabinets de thérapeutes ou même à domicile ?
Alors, ça l'est déjà plus ou moins quand même, parce que dans les cabinets de thérapeutes, il y en a certains qui utilisent pour les thérapies d'exposition justement la réalité virtuelle dans leurs soins. Hein, c'est des thérapeutes qui ont été formés. Ils ont été formés aux thérapies cognitivo-comportementales, donc au milieu normal. Ils sont décidés de se former un peu plus pour utiliser la réalité virtuelle. Sauf qu'il faut acheter le matériel de réalité virtuelle. Ça a certains coûts quand même. Donc, le fait est que ben, tous ne le font pas. Et chez monsieur et madame tout le monde, on a déjà quelque part cette réalité virtuelle. Alors, peut-être pas au niveau du soin et d'améliorer nos capacités, etc. Ou de nous tester sur certaines, par exemple, sur la mémoire, sur l'attention, etc. Mais on a déjà cela puisqu'on voit bien qu'il y a des lunettes de réalité virtuelle qui sont vendues. Voilà. Et justement, donc déjà, ça existe pour le commun des mortels et c'est vendu pour le grand public. Après, est-ce qu'ils vont mettre une réalité virtuelle pour justement évaluer les fonctions cognitives et que les personnes puissent s'évaluer, regarder effectivement à quel moment, pourquoi est-ce qu'elles ont des problèmes de mémoire, etc. Je ne sais pas si ces environnements virtuels vont pouvoir être accessibles au grand public. Ça dépendra effectivement de l'évolution des choses et s'ils passent ou pas en domaine grand public.
Et une dernière question, si vous deviez donner un conseil à un professionnel de santé qui souhaite s'initier donc à l'usage de la réalité virtuelle dans sa pratique, ce serait quoi ?
Ça serait déjà de tester. Première fois,
sur lui ?
De tester parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant comme quoi il y a différents types de réalité virtuelle, mais c'est impressionnant comme quoi on peut vraiment se sentir immergé au point de perdre ses repères dans ce monde virtuel. Donc, pour qu'il puisse comprendre effectivement en tant que thérapeute ce que le patient va ressentir, pour qu'il puisse effectivement aussi donner, faire en sorte que le patient se sente bien, là, il n'y a qu'une solution, c'est tester soi-même.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Célia Morès pour toutes ces informations. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On parlera de l'utilisation de la réalité virtuelle toujours, mais dans le domaine de la formation. Ce sera dans la sphère neuro. Bonne journée, à bientôt Célia.
Bonne journée Ombline.
La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio.